Marie-Hélène Léautin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge de la culture à la CTM. Vous êtes conseillère exécutive. Ça veut dire que vous faites partie du board décisionnaire du gouvernement martiniquais, on va dire, hein, même si on n'est pas dans un véritable 74. Hein, mais enfin, disons que dans la nouvelle mouture administrative de la Martinique, vous faites partie des décisionnaires de la culture. Depuis quelque temps, vous avez un désir de relancer toutes ces activités patrimoniales et vous avez, depuis à peu près 3 ou 4 mois, recommencé à mettre en marche un certain nombre d'organismes que vous gérez pour les mettre en cohérence. Et aujourd'hui, vous êtes de nouveau présent ici à l'espace Joséphine.
Oui, moi je crois qu'il faut profiter de grands rendez-vous sur l'année. Il y a des rendez-vous qui sont en fait des rendez-vous internationaux parce qu'on les retrouve également en Europe et dans le reste du monde. Des rendez-vous comme la fête de la musique au mois de juin ou en ce moment les journées du patrimoine au mois de septembre. Même si pour nous, bon, la période n'est pas très convenable puisque nous sommes en pleine période cyclonique, mais ce sont à l'origine en 10 journées européennes du patrimoine et on comprend ça pour l'Europe puisque c'est un peu la fin de l'été, les derniers week-ends ensoleillé, donc ça marche très fort. Donc nous aussi, nous devons utiliser ces grands rendez-vous, mais en mettant l'accent sur nous, bien entendu, sur nos grands Martiniquais qui ont fait des choses, qui ont laissé des traces. Et le docteur Robert Rose-Rosette est un de ces Martiniquais. Il a traversé le 20e siècle, on peut dire. Il est né tout au début du 20e et il est mort dans les années 1990. Donc on peut dire qu'il a traversé tout le 20e siècle. C'est un de ces Martiniquais qui ont fait quelque chose. Il ne s'est pas contenté de dire, il a fait. Et évidemment, sa réalisation, c'est ce domaine de la pagerie qui était sous les herbes, sous les rasiers, que personne ne s'en occupait aux Trois-Îlets. En 1944, il achète ce domaine, fait une partie de ce qu'était l'habitation sucrerie dans les 17e, 18e siècles. Et puis 10 ans après, il ouvre le musée. Et aujourd'hui, le domaine de la pagerie est un des sites culturel de Martinique les plus visités par les touristes. Alors bien sûr, on sait pourquoi. La raison principale, c'est que c'est le lieu de naissance de l'impératrice Joséphine. Les Européens sont au courant de ça, mais aussi les Américains, ils aiment bien l'histoire de Napoléon, etc. Donc il y a cet aspect-là, si vous voulez, qui attire le touriste, mais nous devons utiliser ceci pour montrer justement nos richesses, ce que nous avons fait, ce que nous sommes capables de faire, et pour pouvoir mieux construire demain. C'est ça, on dit souvent, se souvenir pour construire demain. C'est le sens de toute commémoration. Donc, il fallait rendre cet hommage au docteur Robert Rose-Rosette, qui était un docteur vétérinaire, mais aussi un passionné d'histoire, un passionné du patrimoine. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et nous attachons aussi beaucoup d'importance à ce qu'on appelle la transmission culturelle. C'est-à-dire connaître ces Martiniquais qui ont laissé des traces et puis assurer la transmission en direction des jeunes générations. Et c'est ce que le réseau Canopée, qu'on appelait anciennement le CRDP, le Centre de Recherche de Documentation Pédagogique.
Il y a l'Académie.
Qui est lié à l'Académie, oui, ça, c'est une des antennes de l'Académie Martinique et de l'Éducation nationale, de façon générale. Mais ce réseau Canopée, qui est plus spécialement dédié à la recherche et à la publication d'outils pédagogiques, il a réalisé cette exposition sous le docteur Rose-Rosette et il a réalisé un livret pédagogique. C'est ce qui est le plus important pour nous, parce que les enseignants pourront utiliser ce livret à la fois avant de venir voir l'exposition, pendant et après pour tirer quelque chose avec leurs élèves. Et c'est vraiment une belle réalisation. Il faut travailler comme ça en synergie, à la fois les sites culturels de la CTM, l'éducation, les enseignants, l'aspect pédagogique, le réseau Canopée. C'est cette réalisation-là que nous saluons. Parce que c'est à la fois la valorisation de notre patrimoine, la valorisation d'un certain nombre d'hommes qui ont traversé le XXe siècle en laissant quelque chose qui montre la richesse de notre pays. Et puis, c'est également l'éducation, la transmission culturelle vers nos jeunes générations.
Alors, Madame Marie-Thérèse Léontin, vous nous avez retracé, en tout cas, l'intérêt par rapport à ce Martiniquais qui a eu l'idée de valoriser une partie de l'histoire qui est appréciée de par le monde. Vous disiez aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Il faut rappeler tout de même qu'on fait une filiation directe entre Joséphine et toutes les têtes couronnées aujourd'hui en Europe. Il y a un lien véritable, de sang même. Et il se trouve que c'est quand même un personnage discuté à la Martinique. Vous êtes bien placé pour en parler, puisque vous savez que Mme Rose Rosette me disait tout à l'heure, il ne faut pas oublier que vers les années 80 et quelques, il y a eu des bombes de placer ici. Parce que Joséphine a été pour les révolutionnaires, nationalistes et compagnie, un personnage non représentatif. Alors, quel est, vous, à la fois dans votre, disons, casquette politique aujourd'hui, vos responsabilités administratives et aussi votre vision politique, le point qu'il faille faire par rapport à ce personnage Joséphine?
Oui, nous disons qu'il faut tirer parti de tous les aspects de notre histoire, les aspects positifs tout comme les aspects négatifs. Je vais donner un exemple de comparaison sur ce qui se passe en Europe. Le camp d'Auschwitz en Pologne, on ne l'a jamais détruit. Et c'est un lieu de visite. C'est un lieu de souvenir, de commémoration. Ce qu'on a pu imaginer de plus monstrueux, puisque c'est un lieu de mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, il est là. Et les gens viennent spécialement comme une sorte de pèlerinage. Alors, pour nous ici en Martinique, c'est vrai que nous avons, en tant que Martiniquais, un problème, je dirais, avec Joséphine, puisqu'on sait que le plus souvent, partout où il y a une statue, elle a réussi à sauver sa tête pendant la Révolution française, mais ici en Martinique, bon, malheureusement, bon, elle n'arrive pas à sauver sa tête ici en Martinique, en tout cas au niveau des statues que nous avons.
Juste une question, Mme Léonté. Vous savez où elle est, la tête, ou pas, aujourd'hui?
Moi, je ne peux pas savoir. Il y a des gens qui savent, mais moi non. Ce sont ceux qui l'ont décapité, bon, qui savent peut-être. Mais pour moi, le problème n'est pas vraiment là. Pour que cela s'arrête, parce que c'est du vandalisme, mais quand même, pour que cela s'arrête, bon, il faut que nous ayons une vision claire et objective autant que possible de notre histoire. Ce que j'appelle l'histoire, en fait, c'est la connaissance vraie de notre histoire, et non pas les mythes et les légendes. Il faut arrêter avec ça. Un peuple, il devient un mur, est capable de prendre ses responsabilités, de construire son avenir, lorsqu'il a une vision claire de son histoire. Et je l'ai dit, le rôle que Joséphine a bien pu jouer dans le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte en 1802, ce rôle est tout à fait anecdotique. Avec ou sans Joséphine, Napoléon Bonaparte aurait rétabli l'esclavage parce que ça correspond à une nécessité à ce moment-là. En 1802, la paix est signée avec l'Angleterre. Ce sera pour un court moment, mais enfin, la paix règne en Europe à ce moment-là. Et l'objectif essentiel de Bonaparte, c'est d'assurer le redressement de la France. Il ne faut pas oublier que la France sort de 10 ans de révolution et 10 ans de guerre. Il faut assurer le redressement. Et le redressement passe également par le rétablissement, j'allais dire, entre guillemets, de l'ordre, ce qu'ils appellent l'ordre colonial, dans justement les colonies comme la Martinique, la Guadeloupe, etc. La France a perdu Haïti. Elle est en train de perdre Haïti. Il n'est pas question de perdre également la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc, il faut rétablir l'ancien système qui était le système esclavagiste en 1802. Et c'est ce que Napoléon Bonaparte fait sous la pression de ce qu'on appelle seulement le lobby des armateurs des grands ports de l'Atlantique français, Nantes qui a été le premier port négrier, Bordeaux, La Rochelle, etc., Le Havre, Rouen, Lorient. Mais c'est principalement Nantes, Bordeaux et La Rochelle qui étaient les principaux ports négriers. Il faut recommencer le commerce avec les colonies d'Amérique. Il faut assurer le redressement économique de la France. Si Napoléon Bonaparte est arrivé à dirigeant de la France, c'est bien pour rétablir la paix, mais aussi la prospérité économique. C'est ce qu'on attend. Donc, pour rétablir la prospérité, pour rétablir le commerce transatlantique, il faut produire du sucre. C'est ce que nous savons faire, c'est ce que nous faisons. Et à ce moment-là, on n'a pas encore les moyens de produire sans la main-d'œuvre esclave dont on dispose, qui est là. Donc, dans l'esprit de Bonaparte et du capitalisme marchand français, il faut rétablir l'esclavage, et c'est ce que Napoléon Bonaparte fait, parce que c'est pour ça qu'on l'a mis à la tête du pays. Donc le rôle de Joséphine est vraiment infime, peut-être même qu'il est tout à fait nul, mais vraiment accessoire dans ce rétablissement de l'esclavage. Donc il faut qu'on comprenne ça, mais pour comprendre ça, il faut connaître la situation de la France, de l'Angleterre, de l'Europe à ce moment-là. Il faut comprendre la situation de la France, surtout sur le plan économique. Bonaparte est là pour remettre la France dans une situation de prospérité économique. Parce que pour le moment, c'est l'Angleterre qui est en train de se développer. Il ne faut pas oublier qu'on est au début de la révolution industrielle. Donc il faut aussi que la France prenne le train également en marche. Et c'est ce qui explique le rétablissement de l'esclavage. C'est la raison essentielle. Ce sont des raisons économiques.
C'est ça. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faille faire, disons, la paix avec Joséphine?
C'est-à-dire, il n'est pas question de faire la paix ou de ne pas faire la paix. Il faut comprendre que c'est l'histoire, simplement. Il se trouve que Napoléon Bonaparte, il a épousé une Martiniquaise, puisqu'elle est martiniquaise, c'est une grande famille béquée martiniquaise. Il se trouve qu'il a épousé une martiniquaise, mais il se trouve surtout qu'il est là pour défendre les intérêts de la France, de la métropole coloniale. C'est ce qu'il faut comprendre, et il nous faut tirer parti de ça. Il nous faut dire, bon, il y a là une habitation sur Corée qui s'appelle la Pagerie, où Joséphine est née. Tirons profit de ça, expliquons aux enfants ce qu'était une habitation sucrerie, ce qu'était la situation de la France à ce moment-là, mais ce qui est aussi notre histoire. J'ai dit que l'habitation sucrerie, c'est vrai que c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de servitude, mais est-ce qu'il faut pour autant tourner le dos? C'est aussi un lieu de création, c'est aussi un lieu de vie. Tout simplement, les danses belles, etc., ben, elles sont nées sous l'habitation. Elles ne sont pas nées sous les bois, là, avec les nègres marrons. Elles sont nées sous l'habitation, ces danses. C'est un lieu de création et c'est aussi un lieu de résistance. Ceux qui se sont battus pour l'abolition de l'esclavage, bien sûr, il y a eu l'apport des nègres marrons, mais vous savez, le marronnage ne s'est jamais beaucoup développé, très développé en Martinique, parce que c'est un petit pays et que vous n'avez pas... Oui, vous n'aviez pas les grandes sociétés marronnes comme au Brésil ou même en Guyane. La Guyane est immense par rapport à la Martinique. Donc, ce n'est pas le marronnage qui a permis l'abolition. C'est la lutte des nègres sous les habitations. Le 22 mai, c'est prêcheur Saint-Pierre. Ce sont les nègres d'habitation qui se sont insurgés. C'est une insurrection armée et qui ont imposé l'abolition de l'esclavage.
Même si, sur la question du 22 mai, je suppose que vous avez certainement lu le livre très documenté d'Édouard de Lépine sur la question, qui considère que ce n'est pas que ça. Mais enfin, on ne va pas ouvrir le débat là, on aura l'occasion de se retrouver pour ça. Ce que j'aimerais, Madame Léontin, je crois que vous exprimez clairement l'idée qu'il faille transcender tout cela et qu'il faille aujourd'hui se mettre dans une perspective de développement, une perspective de dynamique économique. Et vous avez l'air de vouloir aujourd'hui tirer la quintessence de cet espace et de le dynamiser. Vous pouvez nous en dire plus?
Oui, il y a l'espace La Pagerie, mais il y a aussi les autres sites culturels qui sont propriétés de la CTM, comme le Fonds Saint-Jacques qui est en pleine réparation,
réhabiliter.
En ce moment, que nous sommes en train de réhabiliter. il y a un nouveau site dans le Grand Nord, c'est l'habitation Gradis, et nous avons des activités, nous avons un programme culturel pour la saison, comme on dit, 2018-2019. Vous avez d'autres, les musées, d'autres sites un peu partout en Martinique. Il y a le Père Pinchot qui vient, enfin, il y a, disons, quelques mois simplement que le Père Pinchot est ouvert. Il y a encore beaucoup de choses qui restent installées, hein, mais ça va se faire au fur et à mesure. Et nous pensons effectivement que nous avons un devoir de faire connaître ce patrimoine. On dit, je suis conseillère exécutive à la culture et au patrimoine. Et ça fait partie, la culture, ce n'est pas seulement les artistes. Bien sûr qu'il faut soutenir les artistes, il faut soutenir la création artistique, mais il faut assurer la transmission culturelle et ça passe également par des éléments de notre patrimoine. C'est ça notre richesse, donc il faut utiliser ça pour le développement touristique, le développement économique, mais aussi le développement simplement de notre jeunesse et de notre peuple, pour que nous nous réconcilions avec un certain nombre de, disons, de lieux qui ont fait notre histoire, qui ont fait notre richesse. Et je dis qu'il nous faut nous appuyer justement sur notre richesse pour pouvoir continuer à aller. Il y a des dates également, des moments dans notre histoire. Le mois de septembre, c'est aussi le mois de l'insurrection du Sud. La CTM a pris sur elle chaque année, depuis 2016, 2017 et 2018, nous arrêtons un moment pour commémorer cet événement, parce que l'insurrection du Sud, c'est un aspect de la dignité martiniquaise. C'est une lutte contre l'injustice. Et il nous faut savoir cela pour dire que notre peuple a fait lui aussi. Il a fait, il a participé au progrès de l'humanité. C'est ce qui peut nous rendre plus responsables pour pouvoir mieux construire le projet pour notre pays.
Très bien. Marie-Hélène Léontin, merci de cet entretien. Je rappelle que vous êtes conseillère exécutive en charge de la culture et du patrimoine à la CTM, la collectivité territoriale de la Martinique. Et nous vous rappelons aussi que notre micro est toujours à suivre ce que vous faites, parce qu'il y a lieu aussi, à mon sens, que des médias, même si ce ne sont pas les principaux médias, viennent suivre ce type d'événements qui sont aussi des événements fondamentaux pour dynamiser le pays. Je vous laisse le dernier mot.
Oui, vous l'avez dit, le dernier mot. Il y a des événements où nous devons nous retrouver, nous, Martiniquais, pour montrer ce que nous avons fait et pour montrer que nous sommes en responsabilité et capables de continuer à progresser pour rendre nos sociétés meilleures.
Merci Marie-Hélène Léotin.
Merci.